Alors, donc là, je passe la parole aux collègues chercheurs qui nous rendent compte donc, déjà d'une synthèse de leurs travaux. Voilà, à vous la parole. Et là, elles ont quand même une demi-heure.
Merci Nora. Donc nous, on va vous présenter avec Julie la première synthèse de la recherche Engagir. Il y en aura une par table ronde qui porte sur cette notion de pouvoir d'agir et sur la diversité des usages qui en est faite au sein des centres sociaux. Alors, c'est une question qui est centrale dans le projet Engagir parce que c'est en grande partie pour comprendre comment cette notion de pouvoir d'agir, elle était saisie et elle était mise en œuvre, que le projet Engagir a été conçu. Et il s'agissait aussi de repérer les éventuelles difficultés dans cette mise en œuvre à l'échelle dans les centres sociaux de la région centre. Alors, les analyses qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est important de le préciser, elles reposent surtout sur des entretiens qu'on a réalisés avec des salariés de centres sociaux et sur l'observation d'espaces de rencontres qui nous ont été indiqués par ces mêmes salariés comme des espaces où la question du pouvoir d'agir, elle était au travail. Donc c'est une approche, si vous voulez, qui a privilégié les discours et les pratiques, et certaines pratiques des équipes salariées. Et ça peut s'expliquer d'une part par le fait que du fait des travaux et des connaissances antérieures de l'équipe de recherche sur ces questions, par exemple sur les transformations du travail social, mais c'est aussi une approche qui reflète des degrés de familiarité, on va dire, différents, notamment par rapport à cette notion au sein des conseils d'administration et parmi les bénévoles, où la notion elle pouvait paraître moins familière que pour les salariés. Et ça, c'est pas forcément étonnant, en fait, que les salariés se soient davantage appropriés cette notion dans les centres sociaux, parce que les réflexions autour du pouvoir d'agir, elles proviennent en partie de questionnements sur l'évolution des métiers dans le travail social et dans l'animation, avec l'idée de redonner du sens à ce qu'on fait et de faire évoluer les postures professionnelles. Puis ce qu'on va voir aussi, vous verrez, c'est que les positionnements diversifiés à l'égard de cette notion de pouvoir d'agir, elle ne nous parle pas que du pouvoir d'agir des habitants, mais elle nous renseigne aussi sur un ensemble de tensions qui traversent les centres sociaux et sur les représentations, sur la société, sur les rapports sociaux, le centre social ou encore le travail social. Alors, on est parti d'un constat qui a été discuté, Ramatou l'a rappelé, dans les journées régionales avant Engagir et dans les journées de coproduction régionale d'Engagir, qui est le fait qu'il y a une grande diversité de conceptions du pouvoir d'agir, alors à la fois dans les centres sociaux, mais aussi dans la littérature en sciences sociales qui traite de ces questions. Alors, dans les centres sociaux, je ne reviendrai pas dessus parce que vous l'avez bien déjà présenté, peut-être juste insister sur le fait que En mettant en avant cette visée de développement du pouvoir d'agir dans son projet fédéral, le réseau régional n'a pas imposé une définition. Elle s'est contentée de rappeler la définition donc, qui a été donnée de Yann Le Bossé, qui est très présente au niveau de la Fédération nationale. On avait toutefois en tête une définition qui est peut-être un petit peu différente ou un petit peu décalée, qui est très présente dans la littérature en sens social, qui estime en fait que dans le pouvoir d'agir, le pouvoir d'agir désigne en fait une triple démarche, donc à la fois d'autoréalisation et d'émancipation des individus, de reconnaissance des groupes et des collectifs et de transformation sociale. Donc, en mettant en avant, en soulignant la dimension individuelle du processus, la dimension collective et la dimension politique, ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les travaux de William Ninax au Québec ou de Marilyn Baquet et de Carol Buvener sur l'empowerment. Donc ça, c'était un peu, si vous voulez, nos définitions de départ, notre grille de lecture avec ces trois dimensions, même si l'objectif, c'était pas de voir, en faisant les enquêtes de terrain, la conformité telle ou telle pratique à une définition donnée a priori. Hein, mais c'était bien de comprendre, en fait, le sens que les acteurs eux-mêmes donnaient à cette notion de pouvoir d'agir et de comprendre aussi comment il s'attachait à le mettre en œuvre et les questions que ça soulevait dans l'action des centres sociaux. Donc à partir de cette perspective, d'essayer de comprendre ce qu'on met derrière, ce qu'on a observé, c'est une grande diversité de manière de se positionner par rapport à cette catégorie. Donc c'est ce qu'on verra dans un premier temps. Et on a essayé d'en comprendre les raisons en s'intéressant à la fois aux trajectoires des salariés, aux contraintes qu'ils rencontrent dans leur travail et aux transformations plus larges dans les champs professionnels du travail social et de l'animation. Cela nous a amené à analyser l'introduction de la notion du pouvoir d'agir comme mettant en tension des postures et des conditions de travail. Donc c'est ce qu'on verra dans un deuxième temps. Et puis finalement, donc vous avez vu, on s'intéressait beaucoup à ce qu'en disaient les salariés au discours, mais aussi, on a aussi observé un certain nombre de pratiques. Et en observant des espaces ordinaires dans les centres sociaux, on a finalement repéré une certaine cohérence entre les discours et les pratiques, avec une prédominance, on va le voir, de la dimension individuelle du pouvoir d'agir. Donc pour commencer sur le premier point, donc les entretiens qu'on a menés dans les différents centres sociaux de la région montrent que la catégorie du pouvoir d'agir, elle est donc diversement perçue par les salariés. Pour certains, c'est une catégorie en fait qui semble être étrangère, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas sens à leurs yeux, elle ne leur semble pas utile. Et donc c'est fréquemment le cas pour des animateurs qui ont eu des parcours, animateurs et animatrices, parce que c'est souvent des femmes, qui ont eu des parcours professionnels qui sont caractérisés par de multiples reconversions, qui ont une absence d'implication militante et qui ont une socialisation familiale qui est souvent éloignée des enjeux politiques. Et donc dans ces cas-là, on a, dans les entretiens, en fait, souvent on nous donne une définition très large du pouvoir d'agir. Juste pour vous donner un exemple, une salariée qui nous dit « Le pouvoir d'agir, c'est tous les jours avec tout le monde, au bon vouloir de chacun, dans n'importe quel contexte. C'est être avenante, aimer aider, vouloir investir des relations, vouloir donner. » Et pour ces salariés, en fait, le pouvoir d'agir ne constitue pas tellement un référentiel pertinent. C'est défini comme un gros truc abstrait. Et d'ailleurs, on a eu souvent l'impression, comme chercheurs, ce qui est paradoxal avec toute l'histoire qu'on vous a racontée, que les salariés découvraient cette notion, en fait, avec le pouvoir, avec le programme Engagir, alors qu'on a vu que c'était présent dans les travaux du réseau fédéré déjà depuis le début des années 2000. Et d'ailleurs, ça interroge sur qui est-ce qui participe à l'élaboration du projet fédéral des centres sociaux et la manière dont ça circule ensuite, les débats circulent ou non au sein des structures. Alors, pour d'autres salariés, le pouvoir d'agir, ils en parlent comme une catégorie imposée. C'est-à-dire que c'est vu comme une catégorie institutionnelle qui est imposée par le haut, une forme d'injonction, une nouvelle offre de participation institutionnalisée. On nous a dit, par exemple, il faut mettre le mot quand on répond à un appel à projet. Alors, dans certains cas, c'est une vision qui est portée par des salariés qui ont toujours travaillé dans le même centre social et où, en plus, la question du pouvoir d'agir, elle n'a pas forcément été posée. Alors, à manière un petit peu différente, il y en a certains qui s'inquiètent sur le fait que développer le pouvoir d'agir, ce soit une nouvelle injonction à participer, adressée en particulier aux classes populaires. On nous a dit, par exemple, il faut faire attention de ne pas culpabiliser les gens parce qu'ils utilisent ce service, une activité du centre social. Et je me dis, ben oui, il est fait pour ça aussi. Et donc, utiliser, dans cette optique, en fait, utiliser un service sans participer au centre social, ce n'est pas vu comme une position passive ou assistée de simple consommation qui est souvent dénoncée, mais ça pourrait être considéré pour ces salariés comme une manière de résister finalement à cette injonction, à l'activation, à la responsabilisation, à l'autonomie des usagers. Donc on peut voir ce type de position comme un certain engagement en fait auprès des classes populaires, dans le sens où profiter d'un service, bah, ça peut signifier aussi avoir du temps pour soi, surtout pour des femmes dont le travail, soit à la maison, soit salarié, ça consiste souvent à servir les autres. Donc une petite conquête en fait sur du temps qui est contraint et qui est contrôlé au quotidien. Donc face à ce qui est perçu par certains comme une injonction qui pèse sur les classes populaires. Finalement, le fait de refuser cette catégorie de pouvoir d'agir, ça pourrait être une manière de résister à cette injonction. Et donc ici, on peut aussi mentionner un ensemble de représentations qui s'expriment dans une phrase qu'on a souvent entendue, qui est de dire « je ne fais pas du pouvoir d'agir ». Pour certaines personnes, en fait, qui s'expriment ainsi, qui sont souvent formées à l'éducation populaire, la notion, elle n'est pas étrangère, mais elle n'est simplement pas jugée pertinente, parce qu'elle serait trop floue, et on pourrait finalement caractériser n'importe quelle activité avec celle-ci. Donc tout le monde finirait par faire du pouvoir d'agir, ce qui rendrait la mobilisation de cette notion assez peu utile. Et puis, pour d'autres salariés, en fait, le terme n'est pas pertinent, parce qu'ils, tout simplement, ils caractérisent leur mission autrement. Ils ont une conception du travail qui est plus proche du travail social classique, comme travail pour autrui, d'aide à l'autre, et ils estiment être là pour rendre service, et donc ne voient pas comment la notion de pouvoir d'agir finalement pourrait s'accorder à cette vision de leur métier. Alors, on trouve aussi un certain nombre de salariés pour qui le pouvoir d'agir, c'est une catégorie qu'on peut dire familière, c'est-à-dire qu'elle fait sens à leurs yeux, quand on en parle, elle fait écho à leurs pratiques, mais la plupart, souvent, ne vont pas utiliser le terme. Ils vont préférer, par exemple, ceux d'engagement ou de participation. Et là, il s'agit souvent, en fait, de personnes qui ont été formées dans l'éducation populaire ou qui ont une socialisation familiale qui est proche de l'éducation populaire. Et parmi celles pour qui le pouvoir d'agir est notion familière, c'est la dimension individuelle, donc de monter en compétence des individus qui dominent, le plus souvent, et beaucoup plus rarement la dimension collective de mobilisation collective. Donc en fait, les conceptions du pouvoir d'agir, elles sont ainsi souvent structurées autour de la capacité des habitants à devenir bénévoles, à être responsables d'une activité ou être membres d'instances de participation dans un centre social comme le CA. Et ça, on reviendra demain sur ces questions du parcours idéal de l'engagement dans les centres sociaux qui n'entraînent pas forcément des transformations au niveau des visées et des pratiques des centres sociaux. Finalement, pour conclure cette série de modes d'appropriation ou non de la notion, en fait, pour une minorité de salariés qu'on a rencontrés, le pouvoir d'agir, c'est une catégorie mobilisée dans le sens où ils l'ont déjà rencontré dans leur parcours. Sa dimension politique, elle leur paraît évidente, avec une représentation de la société qui est traversée par des inégalités sociales et des rapports de force. Donc, ils évoquent de cette manière la formation de contre-pouvoir par l'action collective que peut soutenir, voire impulser, le centre social. Et donc, les personnes qui mobilisent cette catégorie vont s'inscrire dans le référentiel qu'a défini Régis Cortesero de l'équilibre conflictuel, donc qui vise la formation de contre-pouvoir. Ce sont plutôt des personnes qui sont diplômées et qui ont des expériences professionnelles et militantes parfois diversifiées et qui vont revendiquer de cette manière en fait une posture professionnelle distinctive, sachant que la mobilisation de cette notion, elle est aussi liée à des enjeux de positionnement et de légitimité dans leur sphère professionnelle. Donc au-delà de ces rapports, on voit différents à la notion de pouvoir d'agir, on a repérer en fait une position qu'on peut dire dominante, c'est-à-dire que de manière générale, ça va être la dimension, si on reprend un petit peu notre grille de lecture avec les trois dimensions, ça va être la dimension individuelle qui l'emporte dans les représentations des salariés. Donc l'idée dominante est celle de prendre confiance en soi, de monter en responsabilité. Quand elle est présente, la dimension collective, elle est exprimée sous l'angle de faire ensemble, d'échanger des savoirs et savoir-faire, et beaucoup plus rarement dans une perspective de contestation sociale ou de mobilisation collective. Et de fait, la dimension politique, donc celle de transformation sociale, elle est souvent absente dans ces représentations. Donc les salariés qu'on a rencontrés dans les centres sociaux de la région, il se situerait donc plus dans ce que Marlène Baquet et Carole Buvonneur ont appelé le modèle social-libéral de l'empowerment. Donc en fait, c'est un modèle, elles ont défini trois modèles de l'empowerment. Et celui-ci, c'est un modèle où en fait, on est attentif à la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'on est attentif au fait que la participation permette de restaurer le lien social et la confiance entre les gens. Il est attentif aussi à l'individuation, c'est-à-dire l'idée que chacun devienne soi-même, mais sans interroger structurellement les inégalités sociales et les rapports de pouvoir. Donc on a une conception dominante en fait qui reste centrée sur l'émancipation individuelle, avec parfois une dimension collective dans les activités plus que dans le repérage de situations qui seraient partagées, mais qui va toujours s'arrêter en fait au seuil d'une visée plus globale, comme la transformation sociale, comme si cette visée en fait elle excédait les pratiques professionnelles et celles du centre social. Donc on voit quelques traits dominants, même si une grande diversité d'approches. Et d'ailleurs, on peut se demander comment est-ce qu'on peut comprendre cette diversité des manières de se situer par rapport à la visée du pouvoir d'agir. Et il nous semble qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Tout d'abord, les conceptions qui sont mises en avant, sont mises en œuvre, elles dépendent beaucoup des trajectoires des individus, trajectoires à la fois personnelles, familiales, scolaires, professionnelles, militantes. Donc là, on rejoint les travaux de Marion Carrel et Suzanne Rosenberg, qui ont montré la même chose à partir d'une enquête sur les travailleurs sociaux en France. Mais il nous semble aussi qu'il faut prendre en compte pas seulement les trajectoires des salariés, mais également le rôle des contextes d'exercice du métier au sens large, notamment, par exemple, le statut et le mode de gouvernance des centres sociaux, les relations avec les financeurs et la dépendance à leur égard, ou encore les caractéristiques des populations qui fréquentent le centre.
Donc moi, je vais essayer de poursuivre pour montrer en quoi l'introduction de cette question du pouvoir d'agir met en tension des postures et des conditions de travail. Donc pour les salariés, à leurs yeux, la question du pouvoir d'agir s'inscrit, nous l'avons déjà dit, dans un ensemble de transformations dans le champ de l'animation et du travail social, ce qui peut créer, nous allons le voir, des écarts entre salariés diplômés et salariés formés sur le tas. Ce qu'on voit, c'est que dans les discours, ces derniers peuvent voir, dans cette manière d'introduire la question du pouvoir d'agir, une remise en cause de leur manière de faire, alors que les autres y ont été, on pourrait dire, davantage sensibilisés dans leurs études. Inversement, certains salariés moins diplômés peuvent s'emparer de cette notion pour se requalifier. Et la référence au pouvoir d'agir devient, en quelque sorte, une compétence plus qu'une qualification à proprement parler. Plus globalement, l'introduction de cette catégorie, elle découvre une forte mise en tension des postures professionnelles. Cela a déjà été dit, mais celle qui est associée à la visée du pouvoir d'agir est le plus souvent décrite comme impliquant beaucoup d'écoute, une grande attention portée aux besoins des habitants. Elle consiste à donner des outils pour faire, et surtout pour ne pas faire à leur place, tout en veillant à inclure tout le monde, et en particulier, notamment, les plus vulnérables. On voit bien là que l'idée d'accompagnement est ici centrale. On peut mentionner, pour exemple, le cas d'une épicerie solidaire qui est initiée au départ par des habitants, des habitantes, qui est accompagnée par une salariée d'un centre social et qui devient aujourd'hui une association pleinement gérée par ses habitantes. Donc on peut le voir dans ce cas de figure, développer le pouvoir d'agir participe à une modification des postures professionnelles qui consiste bien à sortir d'une position d'expertise pour développer les capacités des usagers. Mais d'autres salariés mentionnent des contraintes, là aussi ça a été dit, des contraintes qui sont liées notamment à la place occupée par la CAF, notamment dans les centres sociaux en gestion directe, mais pas uniquement. Ce qui est mentionné aussi, c'est la nécessaire neutralité politique, ou bien encore, on dit, ou on entend dire, ou on craint les effets d'un engagement trop important sur le maintien des financements. Des centres sociaux se sont vus rappeler à l'ordre par des partenaires institutionnels dès que la mise en œuvre du pouvoir d'agir se fait un peu trop sentir, en fait, fait un peu trop de vagues. Donc on observe fréquemment une certaine frilosité à assumer le caractère proprement politique de l'action menée dans et par les centres sociaux. Et cette frilosité, elle est parfois justifiée par l'argument que la politique n'intéresserait pas les habitants. Mais on observe aussi que les conceptions du pouvoir d'agir varient selon la place des salariés dans la hiérarchie, leur formation, leur culture professionnelle, le type de contrat dont ils bénéficient et le contexte d'exercice des métiers. Parfois, la différence se constitue entre les promoteurs de cette notion, c'est-à-dire entre ceux qui la diffusent et ceux qui l'appréhendent en pratique. Et bien souvent, les débats portent sur la qualification ou la requalification des postures, des pratiques professionnelles à travers ce nouveau vocable. Et comme il n'y a pas vraiment de définition commune, on l'a vu que la polysémie du terme et que la notion pouvoir d'agir est polysémique, eh bien chacun a tendance à produire sa propre définition. Seulement, au regard de l'hétérogénéité des équipes salariées, de leur formation, de leur trajectoire, des missions, eh bien les divergences sont extrêmement fortes. Et cela reflète cela produit des luttes internes à la fois sur les conceptions même de l'intervention sociale, du travail d'animation et du travail d'éducation en milieu populaire. Bon nombre de salariés considèrent, je les cite, ça a déjà été dit, qu'ils ont autre chose à faire ou bien encore qu'ils manquent de temps. Faire du pouvoir d'agir est vu comme du travail en plus, une activité distincte qui vient s'ajouter à des tâches et à des tâches qui sont déjà trop nombreuses. L'objectif de développer le pouvoir d'agir ne prendrait donc pas en compte le fait que le travail est déjà très contraint et les emplois du temps extrêmement chargés. On retrouve ici l'idée que la polysémie, le flou qui entoure la notion de pouvoir d'agir, au sens où tout pourrait être pouvoir d'agir, eh bien finit par masquer les problèmes rencontrés dans le travail et dans le quartier. Autrement dit, affirmer qu'on ne fait pas de pouvoir d'agir reviendrait pour certains à revendiquer que le travail est difficile et qu'il y a des choses à changer. À l'inverse, pour ceux qui se disent prêts à faire du pouvoir d'agir, celui-ci n'est pas conçu comme une activité en plus, mais bien comme une posture de travail faite d'engagement. Mais là encore, cela rentre en tension avec des contraintes fortes dans le travail, devoir toujours faire plus, y compris en dehors du temps de travail rémunéré. Développer de nouveaux projets dans une perspective de pouvoir d'agir dans ces conditions, eh bien, reviendrait à travailler bénévolement, à réaliser un travail gratuit au nom de l'engagement. Aussi, les critiques entendues dans les discours par rapport à cette catégorie de pouvoir d'agir renvoient finalement aux tensions entre travail engagé et travail salarié. On observe donc des résistances qui découlent des conditions de travail des salariés. Mais un autre frein est constitué par le fait que le développement du pouvoir d'agir est rarement une visée partagée au sein d'un projet d'équipe. Bien au contraire, on a souvent constaté que cette visée restait l'affaire de quelques spécialistes, ce qui produit là encore des effets de concurrence, de légitimité inégale au lieu de produire des effets de coopération. Enfin, autre élément, nombre de salariés s'interrogent sur les compétences nécessaires pour faire du pouvoir d'agir. En fait, beaucoup recherchent un mode d'emploi, se demandent quelles seraient les pratiques, quelles seraient les postures favorables au développement du pouvoir d'agir, comment ne pas faire à la place d'eux, comment écouter sans proposer. Mais en l'absence de formation, ce serait finalement les caractéristiques personnelles de chacun qui permettraient de faire du pouvoir d'agir. Donc la question de la formation, elle semble vraiment centrale parmi les freins au développement du pouvoir d'agir. Certains ne se sentent pas assez formés, ne se sentent pas armés sur le sujet. D'autres estiment que les formations existantes insistent beaucoup trop sur la logique de projet, sans prendre en compte le point de vue des habitants. Mais c'est aussi, et c'est un point important, la conception du métier d'animateur qui peut se révéler être un frein au développement du projet, au développement du pouvoir d'agir. On a entendu souvent, on n'a pas l'impression de faire notre métier quand on propose, ou quand on ne propose pas d'activité plutôt. Et il ne faut pas non plus oublier la précarité des situations professionnelles et le manque d'espace de discussion collective et d'échange de pratiques. Là encore, ça vient freiner le développement du pouvoir d'agir. Si maintenant on analyse, si on passe de l'analyse des discours à l'observation des pratiques, eh bien on observe des enjeux similaires. On retrouve de la même manière seulement deux des trois dimensions du pouvoir d'agir, surtout celle de la démarche d'autoréalisation et d'émancipation des individus, parfois une dimension collective de reconnaissance des groupes, et beaucoup plus rarement, ça a été dit, une dimension politique de transformation sociale. Les activités que nous avons observées sont des activités ordinaires, présentes dans bon nombre de structures, qui nous ont été présentées comme des lieux de socialisation, des lieux de rencontre, d'échange, de convivialité, et vers lesquels nous avons été orientés par les salariés, tout simplement parce qu'à leurs yeux, ces activités ordinaires, eh bien, dans ces activités ordinaires, la visée de pouvoir d'agir serait souvent sous-jacente. Donc, plusieurs configurations ont été observées et nous vous en présentons quelques-unes. Donc, la première est un espace dédié à l'accueil des habitants, où il y a surtout des habitués, connus des salariés du centre social. Ce sont souvent des habitants en grande précarité. Et il s'agit plus d'un espace de construction d'une proximité entre l'équipe salariée et ses habitants, puisqu'on ne trouve pas dans ces moments de débat, on ne trouve pas non plus de processus de formation d'un groupe ou d'un collectif. On reste dans la bonne humeur, on est dans les confidences. Pour autant, l'activité est souvent présentée par l'équipe comme une action clé, car elle permet accueil, elle permet l'écoute, et puis surtout, elle permet d'aller vers les personnes. Il nous semble qu'on retrouve à l'œuvre dans cette activité ordinaire le postulat que le lien social est un facteur de développement du pouvoir d'agir. C'est-à-dire que c'est en favorisant le lien entre les personnes que l'équipe du centre social pense développer leur potentiel d'action. Autrement dit, le développement du pouvoir d'agir dans sa dimension individuelle est alors étroitement lié ici à la croyance dans les bienfaits de la promotion du lien social. La deuxième configuration est un espace, rencontre où se retrouvent des femmes et qui vise, à l'inverse, à constituer un groupe comme support au développement du pouvoir d'agir. La convivialité prédomine également dans cet espace avec des activités de loisirs et des activités de sortie et une logique de projet pour, nous dit-on, ne pas rester dans la consommation. Mais finalement, on reste surtout dans un accompagnement social individualisé et un travail sur l'estime de soi. Et on voit que le gain d'autonomie individuelle devient la mesure de la réussite de cet espace. Les animatrices se félicitent ainsi des belles évolutions personnelles de certains ou de certaines. Et je cite, « Le pouvoir d'agir, c'est dit et vu comme... pour soi, ça peut être le lieu où il y a des choses qui émergent, permettre à la personne d'avoir un peu plus de joli dans sa vie. Enfin, la dernière configuration est un espace d'entre-soi créé à l'initiative de retraités qui permet de se retrouver entre femmes pour échanger sur un sujet prédéfini. Il s'agit de donner la parole aux femmes avec des idées claires de prise de parole, avec des idées claires de prise de parole et d'écoute qui éloigne en fait ce moment de la simple discussion et qui en fait surtout un réel moment d'apprentissage de la prise de parole et d'écoute. Les sujets y sont d'apparence banale, par exemple se vêtir ou qu'est-ce qu'on mange ce soir, mais en fait elles permettent aux participants d'évoquer beaucoup de choses en lien avec leur vécu, en lien avec le quartier, en lien avec l'actualité. Le public des femmes est varié, surtout les points de vue divergent, et il s'exprime, et cet espace est perçu comme d'autant plus important que les femmes sont invisibles, perçues comme invisibles dans le quartier et leurs paroles rares. Ce temps d'entre-soi permet de construire un espace où les femmes peuvent prendre la parole, exprimer leurs difficultés, faire part de leur expérience, travailler leur réflexivité, mais surtout, il permet aussi, je dirais, une circulation d'informations sur le quartier. Il permet de légitimer le rôle du centre social, de favoriser des formes de conscientisation critique, ce qui génère en fait de nouvelles dynamiques solidaires. Mais si les pistes d'action évoquées évidemment ne sont pas mises en œuvre, il y a dans cet espace d'entre soi, dans cet espace d'entre soi, je dirais, féminin, une dimension collective et politique du pouvoir d'agir qui se développe là par l'expérimentation, l'apprentissage entre pairs, bien que sans pour autant développer une approche plus revendicative ou une approche plus publique. On peut conclure de ces quelques observations, de ces activités ordinaires, qu'il existe une forte cohérence entre les pratiques et les discours des salariés dans les centres sociaux de la région Centre-Val de Loire. Dans ces espaces présentés par les équipes salariées comme relevant du pouvoir d'agir, eh bien, ce qui prédomine, là encore, c'est une conception normative et dominante de l'empowerment individuel. Et cette dimension ou cette conception, elle est notamment omniprésente dans les activités en faveur de la promotion du lien social, hein, accueillir les personnes, faire en sorte qu'elles se sentent bien au centre social, favoriser l'expression de la parole intime, etc. Y compris, je dirais, dans des contextes où des projets de rénovation urbaine peuvent servir, par exemple, de levier à la mobilisation collective. Autrement dit, on retrouve ici la prédominance du référentiel le plus répandu dans le réseau des centres sociaux, dans les réseaux des centres sociaux, excusez-moi, celui de la promotion du lien social et de la cohésion sociale, où l'objectif est bien de promouvoir la personne, l'aider dans la réalisation de son projet, de son identité, tout en renforçant le tissu social. Donc là encore, dans la région Centre-Val de Loire, comme souvent ailleurs dans le réseau des centres sociaux, en fait, la figure de la capacitation est extrêmement rare. Et de fait, on l'a vu, à l'exception de l'espace d'entre-soi féminin qui a été présenté et qui est piloté par des bénévoles, les pratiques mises en place au titre du développement du pouvoir d'agir correspondent au sens finalement que la majorité des salariés donnent à leur action, à leur vision de la société et au rôle des centres sociaux. Elles reflètent aussi les attentes des habitants qui veulent de la rencontre, de l'écoute, de la convivialité. Donc pour conclure, on peut revenir sur un constat important. Les manières de faire, les manières de se mobiliser des classes populaires sont peu présentes dans cette synthèse. Et là, il s'agit sans doute ou sans aucun doute d'un point aveugle de la recherche qui est lié en partie au dispositif de recherche. Mais il s'agit plus profondément aussi d'un point aveugle au sein même des centres sociaux. Pourquoi ? Parce que les ressources et actions des classes populaires sont rarement prises en compte. Et là, la question se pose, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un problème dans le fait de considérer qu'il faudrait faire advenir les capacités des classes populaires sans prendre en compte ce qui se fait déjà ? Donc il s'agirait peut-être moins de se demander comment faire du pouvoir d'agir que de se saisir en fait des conditions d'une rencontre entre ces deux dynamiques de mobilisation, celle des salariés et celle des classes populaires, afin finalement d'interroger les possibilités d'agir ensemble.
Très bien, voilà. Merci beaucoup.
Grand applaudissement, parce que c'est... je vais pas faire évidemment une synthèse de cette synthèse qui me semble très riche et qui montre aussi la complexité d'aborder cette question. Je voulais juste pointer sur un certain nombre, à mon sens, de pistes, moi, qui me semblent importantes dans la réflexion avant de passer au débat. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je partirai de la conclusion, c'est-à-dire cette question de la relation ou des rapports entre le centre social et les professionnels dans le centre social et la relation aux habitants, à la population qu'ils sont censés couvrir. Moi, ça me semble un aspect extrêmement important à interroger, et cette idée de champ aveugle. Et du coup, ça interroge le rôle social, du centre social, souvent est perçu dans des représentations dominantes comme un instrument de régulation sociale et politique, un instrument de cohésion, un instrument de paix sociale. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe
par rapport à la question qui nous préoccupe ici, qui est celle du pouvoir d'agir. Ensuite, il y a bien sûr d'autres questions, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a bien aussi la question de qui participe au projet des centres sociaux et comment ensuite la question est répercutée. La formation, évidemment, des intervenants dans les centres sociaux, qui semble être un élément clé. Mais en même temps, on peut se poser la question, est-ce que, par rapport à cette dimension du pouvoir d'agir, est-ce que c'est uniquement un problème de formation? Est-ce que, à mon avis, on ne pourrait pas aussi se poser des questions sur le processus de politisation des intervenants dans les centres sociaux? Et du coup, ça dépasse complètement formé ou non formé. Enfin, ça dépasse cette distinction. Et puis... dernière chose, et qui va être certainement abordée dans l'autre table ronde, c'est évidemment la question de la dimension politique qui est systématiquement écartée pour des raisons de contraintes liées à la pression des financeurs, liées à cette idée de projet, etc. Là, effectivement, la question du modèle dans lequel se situerait le modèle, en faisant référence aux travaux de Baquet et de Biévenère, ce modèle socio-libéral, est-ce que, évidemment, on ne fait pas d'une certaine façon l'impasse sur la question de la transformation sociale, qui mérite aussi d'être interrogée, parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi transformer socialement la société? Est-ce que... Bon, bref, je m'arrête là.